Justice, enfance.
Bonjour et bienvenue sur Famille, Justice, enfance. Aujourd'hui, un direct depuis les studios de Radio Libre en Périgord sur RLP à Coulommiers-Chamiers, près de Périgueux. Un direct donc avec Morgane et normalement Toumani Nimaga, éducateur spécialisé, diplômé d'État, qui est en train de finaliser ses réglages techniques, mais qui devrait nous rejoindre incessamment sous peu. Donc aujourd'hui, nous allons parler protection de l'enfance. Protection de l'enfance, qu'est-ce que la protection de l'enfance? D'où vient-elle? En quoi cela consiste-t-il? Qu'est-ce donc l'ordonnance de 1948 d'après-guerre qui a instauré ces problématiques, ces procédures d'aller protéger les enfants lorsqu'ils étaient en danger de manière visible et évidente. Au départ, c'était une ordonnance qui demandait une ingérence d'État dans des circonstances absolument exceptionnelles. C'était le débat d'origine. On demandera aussi à Toumani de nous présenter son parcours avec sa spécificité, sachant que lui s'est mis éducateur en libéral. Alors, c'est intéressant. J'en ai interviewé déjà quelques-uns ici dans le cadre de l'émission. Éducateur spécialisé en libéral, pourquoi? Bien souvent, c'est pour ne plus dépendre de sa hiérarchie, d'être libre, et surtout pour compenser, en fait, les retards, les temps de traitement des services nationaux, en fait, les services publics qui parfois mettent... Enfin, il n'y a pas de disponibilité immédiate, donc, avoir quelqu'un en libéral, c'est quelqu'un qui est disponible plus rapidement. Nous parlerons, nous regarderons aussi, nous envisagerons les dérives de l'aide sociale à l'enfance, et puis nous regarderons aussi, effectivement, comment est-ce que la population réagit par rapport à ça, mais également comment les gens qui sont à l'intérieur, parce que notre travailleur social, bien souvent, on est en fin de ligne, on est après le travail effectué par les administratifs, après les assistantes sociales, des attachés, ce genre de choses, et bien souvent, le monde de l'éducatif, des psychologues, des véritables professionnels de terrain, a une réalité qui est extrêmement éloignée de la vision idéalisée des politiciens et des administratifs. Toumani, tu vas bien?
Oui, oui, ça va. C'était juste pour savoir est-ce que vous m'entendez, parce que là, l'histoire de la caméra, sur ma fille réglée.
De toute façon, nous sommes à la radio, déjà. Donc, pourtant, c'est effectivement le son. Je t'ai un petit peu présenté. Est-ce que tu pourrais dire qui tu es, d'où tu parles? Qui es-tu, en fait, Toumani Nimagam?
Je suis un papa de 53 ans. J'ai 5 enfants. Ça, c'est pour vite fait ma situation. On va dire social. Et après, professionnellement, ça fait plus de 30 ans que je travaille dans ce qu'on appelle l'éducation
spécialisée.
J'ai travaillé chez eux, par exemple, comme des foyers, ou ce qu'on appelle des lieux de vie aussi, des familles d'accueil, des associations qui présentaient des projets de prise en charge assez, on va dire, spécifiques, étaient expérimentales aussi. J'ai travaillé aussi pour la protection judiciaire de la jeunesse, notamment en centre éducatif renforcé et centre éducatif fermé. Mais là, ça s'adresse plutôt à des jeunes qui apparaissent non pas sur les radars de l'ASE, mais sur ceux de la justice. Donc, d'accord, c'est des gamins qui ont commis des délits, qui sont passés devant un juge et qui ont été sanctionnés, et certains même en prison, puisqu'il existe des établissements pénitentiaires pour mineurs. J'ai travaillé aussi donc en établissement pénitentiaire pour mineurs, c'est-à-dire prison pour mineurs, notamment à Lavore dans le Tarn. Et j'ai aussi travaillé avec les enfants qui sont sous la tutelle de la MDPH, c'est-à-dire des enfants qui sont reconnus comme handicapés avec des troubles du comportement. Alors ça va du trouble des caractères et du comportement, et ça peut aller jusqu'à des handicaps physiques lourds, mais des enfants qui étaient accueillis en IME et en ITEP. Certains en internat, c'est-à-dire qu'on les recevait le lundi et ils repartaient le vendredi pour le week-end chez leurs parents, et d'autres qui étaient accueillis en journée, c'est-à-dire de 8h30 le matin à 17h30 le soir.
D'accord.
Voilà.
Donc tu es un professionnel aguerri avec plusieurs années d'expérience, et tu as aussi une expérience individuelle. Quand on a 5 enfants, c'est pas anodin, tu vois. D'ailleurs, moi je dis qu'il faut être parent pour savoir ce que veut dire et ce que signifie l'âge tendre, par exemple. ça, tu ne le sais que lorsque tu as pu avoir, lorsque tes enfants ont été dans l'âge tendre et l'ont quitté ensuite. Tu ne comprends la signification de ce mot-là que lorsque tu as été parent. Voilà, c'est une discussion que j'ai eu avec quelqu'un qui se reconnaîtra il n'y a pas très très longtemps. On se connaît, nous, depuis 2018, parce que tu as fait partie aussi des opérations d'équité parentale, de ce genre de choses.
Oui, aussi.
Plusieurs fois.
Ça, c'est dans... Mais ça, c'est plutôt... Alors là, ce n'est pas dans le registre professionnel.
Tu es aussi un militant. Tu es une personne engagée. Voilà. Tu es une personne engagée. Tu es un militant pour essayer d'améliorer ce que tu peux améliorer. Essayer de faire une différence, comme on dit en langue anglaise.
À ce titre, en tant que bénévole, comme tu viens de le rappeler, j'ai été à un moment donné sollicité par Équité Parentale, notamment parce qu'on s'était fait remarquer avec SOS Papa dans le sud du Tarn, notamment lorsqu'on nous avions été sollicités par Raphaël Delpar, qui avait écrit un livre sur le combat des pères.
Absolument. Et Raphaël Delpar qui nous apporte notre soutien, qui réalisera un documentaire dans quelques semaines.
Grand bonhomme que nous avons reçu ici à Castres d'ailleurs pendant un week-end. Il était venu présenter son livre à une librairie.
Il est passé à la radio aussi.
Mais là on avait carrément sur Castres avec le concours d'une librairie, on l'avait accueilli, il avait présenté son livre et il y a eu un échange, un débat en plus avec des personnes qui étaient venues. Et entre autres, parce qu'après il y a maintenant aussi l'association Démocratie Participative Castraise qu'on a montée avec des amis ici place. Enfin bref.
Donc tu es le président.
J'ai plusieurs casquettes.
Voilà, tout à fait.
Voilà.
Ok.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Bon, RLP, RLP Toumani, Toumani Nimaga, l'ASE, qu'est-ce que c'est?
Alors, l'ASE. L'ASE, déjà, le sigle ASE signifie Aide sociale à l'enfance. Et c'est une institution qui relève du conseil départemental, en fait. Depuis la décentralisation, c'est-à-dire le milieu des années 90, à partir du moment où a été annulé, enfin, éliminé, c'est plutôt le mot employé. Peut-être que pour les plus âgés, pour nous, ceux de notre génération, peut-être pas les plus jeunes, mais pour nous, de notre génération, la DAS, ce sont des sigles qui nous parlent. Mmh. C'était la Direction départementale de l'assistance sanitaire et sociale. Oui. Et donc, il y avait donc un ministère d'assistance sanitaire et sociale. Donc, quand celui-ci a été démantelé, la responsabilité d'accueillir et de faire le travail que réalisait ce ministère a été dévolue au département. Et un peu par la force, sans vraiment le préparer à l'avance. Voilà. Donc, ça a été confié au département.
C'est-à-dire qu'en fait, l'ordonnance de 48 mettait en place une administration nationale au départ.
Voilà.
D'accord.
C'était une responsabilité nationale avec ce ministère. Ce ministère qui avait son siège à Paris avait ensuite ses délégations départementales et régionales, peu comme la PJJ. Il y a la direction nationale et après il y a la direction régionale et les départements avec chacun leur direction départementale.
D'accord.
Pour faire comprendre vite fait, si demain la justice était décentralisée au conseil départementaux, il se passerait exactement la même chose. Je ne sais pas comment ils le nommeraient, mais la justice ne serait plus une responsabilité de l'État avec un ministère, mais à chaque département de France de le gérer en fonction de ses moyens, de ses capacités et évidemment de la politique qu'il a déjà préparée à cette idée.
Ben c'est ce qui est arrivé avec la DAS. C'est pas comme si la loi était appliquée de la même manière dans chaque institution et chaque juridiction, n'est-ce pas? Bon.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Donc au départ, c'était ça. Et donc, cette décentralisation, le fait qu'il n'y ait pas une aide sociale à l'enfance, mais des aides sociales à l'enfance, qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui et en fait, quelles en sont devenues les dérives de cette bonne intention initiale?
Alors, le bon sentiment au départ, c'est qu'on a donné la responsabilité à chaque département de gérer cela, mais chaque département n'est pas égal face aux problèmes que représente l'accompagnement des familles en difficulté et notamment celles qui manifestent, parce qu'il y a des familles qui ne manifestent pas et qui passent sous les radars, mais là on parle des familles qui le manifestent, que ce soit les parents ou les gamins par leur comportement et qui se retrouvent par la force des choses devant un juge des enfants. Alors quand le juge des enfants aujourd'hui prend la décision sur la demande de la cellule d'information préoccupante qui est sous la responsabilité du département, celui-ci, le juge se fie souvent aux services sociaux. de l'ASE, puisque ce sont les seuls habilités à faire des rapports ou à donner des orientations au juge. Donc souvent, lorsqu'il préconise un placement, par exemple, le juge va prononcer une ordonnance de placement provisoire, ce qu'on
alors,
appelle une OPP.
Petite parenthèse au départ, ce ne sont pas des professionnels de l'enfance qui interviennent et qui font...
Non.
Ce sont des administratifs, ce sont des assistantes sociales,
Des fonctionnaires territoriaux.
Absolument.
Territoriaux qui passent un concours et qui intègrent la fonction territoriale.
Voilà. Mais ce ne sont pas des éducants, ce ne sont pas des gens qui ont une connaissance. D'accord. Et c'est eux qui envoient ça au juge et qui disent... D'accord, ok. C'est important de le dire quand même.
Oui, mais non, mais je le souligne, mais j'allais l'expliquer.
Oui, mais j'en profite si tu veux.
Mais tu fais bien. C'est que malheureusement, parfois... Bon, ces fonctionnaires intègrent la fonction donc territoriale de l'ASE suite à un concours dont les portes leur ont été ouvertes, soit par un diplôme d'éducateur spécialisé pour ceux qui deviennent éducateurs spécialisés du département, notamment l'ASE, quoi, les équipes de l'ASE et éducateurs référents, ou un concours de ce qu'on appelle conseillère économique et sociale ou d'assistante sociale. Voilà. Mais la plupart du temps, ce sont des personnes qui n'ont pas expérimenté, ce sont des diplômés tout frais, et très peu ont expérimenté déjà et pratiquer et travailler dans ces milieux-là.
Ils sont en début d'expérience et certains n'ont même jamais eu d'enfant encore.
Et certains, non, c'est ce que j'allais te dire. Ouais, certains, et même beaucoup, n'ont jamais expérimenté même la paternité ou la maternité dans le cadre personnel. Donc, c'est des jeunes tout frais moulus, diplômés, qui arrivent, et surtout avec le savoir accumulé en théorie. Mais après, en pratique, il y a beaucoup de choses qu'ils ignorent. Et en plus, ils sont sous la hiérarchie de laquelle ils dépendent, c'est-à-dire ils ont un chef de service qui elle-même est rattaché à un directeur de zone, qui elle-même est rattaché à une direction départementale. Voilà.
Qui eux-mêmes sont des purs administratifs, qui ont passé des concours d'attachés, qui ont passé...
Des cadres A. Eux, c'est des cadres A qui ont leurs ambitions politiques.
Et c'est là que la vision idéalisée, parfaite, a lieu, et parfois une certaine déconnexion.
Idéalisée, mais surtout, moi, ce que je constate, c'est qu'elle est surtout, en déconnexion totale avec la réalité des familles et la réalité des enfants. Et qui plus est, d'un département à l'autre, les familles en difficulté ne sont pas à égalité. Il y a des départements qui ont très peu de moyens. Je parle de départements ruraux, par exemple, qui se retrouvaient déjà avec pas trop de moyens, ni, on va dire, un schéma. Pourtant, tout le monde, par la loi, chaque département, même s'ils sont 100, ils doivent avoir le même schéma départemental, c'est-à-dire les mêmes règles de fonctionnement. On implique les familles dans la création du PPE, c'est-à-dire le projet pour enfants. On y implique en thèse les difficultés, en antithèse les objectifs qui sont fixés et à travailler, et en synthèse les objectifs que fixe le juge de ce moment où est prononcé l'OPP jusqu'au nouveau passage devant le juge pour savoir si cette mesure va être levée ou s'il y a nécessité de continuer à la prolonger 9 mois supplémentaires.
Donc effectivement, cette ordonnance 48 qui dit que les enfants qui sont élevés par des personnes qui sont indigentes, qui n'ont pas à manger, dont les besoins fondamentaux ne sont pas révolus, qui sont en train de mendier dans la rue, qui sont mal habillés ou qui ne sont pas aimés, qui sont tabassés, au départ c'était ça.
On va dire qu'ils sont victimes de maltraitance avérée,
qui ont été signalées. Vraiment très importante, qui justifie qu'on aille les mettre dans des environnements qui ne sont pas formidables, il faut le dire. On sait, tout ce qu'on entend un petit peu sur l'ASE, sur la DAS et autres, malheureusement, il se trouve que parfois, pas tout le temps, mais parfois, c'est vrai. Donc, ça veut dire qu'on prend les risques, on met des enfants, parce que là où ils sont, c'est encore pire que ça, en fait.
La logique au départ,
c'est celle-là, quand même.
Oui, mais là, on parle de la théorie.
Oui, c'est ça.
Là, pour l'instant, en théorie, ça s'adresse à des enfants qui sont vraiment en situation de maltraitance. Et d'ailleurs, quand ça se déroule selon la théorie, la pratique est toujours justifiée et la plupart du temps, elle se passe bien. Le problème, et c'est ça l'un des principaux dysfonctionnements actuels des LASE, c'est que ça aurait été intéressant que d'autres collègues en parlent, et notamment ceux qui ont l'habitude de travailler avec LASE, c'est que malheureusement, on s'aperçoit que cette notion de protection a été dévoyée, qu'aujourd'hui beaucoup, beaucoup de familles et d'enfants se retrouvent avec une information préoccupante et une convocation devant un juge sur la base d'accusations qui sont fallacieuses et qui ne sont pas du tout basées sur une vraie maltraitance ou une vraie défaillance parentale. Et c'est là que ça devient compliqué. Parce qu'on retire ces enfants d'une famille où il y a un cadre qui est posé, où la plupart des besoins de base sont assurés, l'enfant va à l'école, l'enfant est soigné, l'enfant n'est pas déscolarisé, mais on apprend par exemple dans un rapport de l'ASE que les parents seraient trop cadrants, ils seraient trop rigides, ils seraient à la maison.
Pour un tiers voilà, d'entre eux, il y a un conflit parental, une séparation qui se passe mal. Le trauma vous expliquait qu'un tiers des placements, c'est les enfants, c'est des parents qui se disputent.
C'est ce que j'allais te dire. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, depuis quelques années, l'excuse fourre-tout, c'est le conflit parental. Voilà, ils mettent devant conflit parental et le conflit parental devient un motif de placement. Alors que non, pas du tout. Le conflit parental engage les parents, il n'engage pas les enfants. Et le conflit parental apparaît lorsque les parents divorcent ou se séparent. Donc ce sont les parents qui se séparent, ce ne sont pas les enfants.
Mais nous on
qui
le dit ici, je l'ai entendu plusieurs fois, si tu veux faire une crasse à ton voisin ou quelqu'un que tu n'aimes pas, tu fais une information préoccupante en disant il paraît que, et il y a très très grosse chance qu'il y ait beaucoup de problèmes quoi, qui se passent ensuite.
Hein. Et il est là le souci et le paradoxe. Le paradoxe, c'est que là, les services sociaux vont intervenir, vont venir prendre comme excuse le conflit parental qui serait la cause du mal-être des enfants, etc. Alors que les enfants, ils continuent à aller à l'école, ils n'apparaissent pas sur les radars de la justice. Quand ils peuvent même maintenir les liens avec les deux parents. Donc, il n'y a que les parents qui, même parfois, certains, et ça, quand je fais de la médiation familiale, c'est ce que j'essaye avec difficulté de faire comprendre à deux parents en conflit. Les enfants ne sont pas un enjeu. Les enfants ne sont pas non plus un outil qu'on utilise ou qu'on aliène ou qu'on essaye de monter contre l'autre pour gagner la bataille.
Ils sont gravés à l'entrée des bureaux de voilà. Gérard. On ne divorce pas de ses enfants, on divorce du parent.
Voilà, l'enfant. Donc, et moi, j'ai des parents, des fois, ils réagissent à ce moment-là. Parce que je leur dis, faites attention, vous courez le risque que cette guerre que vous êtes en train de vous mener soit utilisé par les services sociaux comme excuse. Et là, c'est tous les deux qu'allez vous retrouver sans les enfants. Et à partir du moment où vous allez vous retrouver sans les enfants, ça va être très, très, très compliqué de les récupérer. Alors, et souvent, les parents sont incrédules.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Alors, effectivement, il y a un tiers, ce sont des conflits parentaux. Le deuxième tiers, ce sont des femmes battues. Comme disait Maître Hamas, c'est à double punition. Non seulement elles ont pris des coups, mais en plus, comme l'enfant n'aurait pas été protégé, lui, il est placé aussi. Il y a les handicapés. Mais surtout, le problème qu'on a, c'est qu'on a des politiques qui disent que les instructions de l'Europe aussi, qu'il faut absolument protéger les enfants. Ils ont raison, d'ailleurs, de protéger les enfants contre l'inceste, contre les violences et autres. Donc, on a des jeunes qui sont assez peu formés, qui vont aller au moindre signal, à la moindre information, aller remplir des papiers. Et puis, il faut le savoir, en fait, ils viennent chez vous durant une heure et demie. C'est assez court, en fait. L'impartialité n'est pas tellement faite. On ne verra jamais un procureur aujourd'hui, dans l'ambiance politique actuelle, refuser une IP. Donc, en fait, ça se termine au juge des enfants. Et le juge des enfants va se baser à 95% sur le rapport qui lui vient des services sociaux. Et à ce moment-là, l'enfant va arriver au niveau des vrais professionnels, et là, les vrais professionnels, ils vont commencer à halluciner. Et après, qu'est-ce qui se passe au niveau des vrais professionnels? C'est dans quel état, en fait, la réception des enfants, là, en bas, là?
Alors, déjà, il y a le souci de la manière dont se déroule, justement, le retrait des enfants au domicile parental pour être confié ensuite aux services sociaux de l'ASE. Parce qu'on soit bien clair, normalement, ça se passe en audience. Même quand il y a un signalement classique, normalement, la cellule d'information préoccupante, elle saisit le juge des enfants en lui signalant, voilà, on nous a alerté sur une potentielle situation concernant des gamins en danger. Donc, à ce moment-là, le juge des enfants convoque les parents dans son bureau. Il donne une date d'audience où les parents sont conviés avec les enfants. Et à ce moment-là, cette audience, ce débat qui va avoir lieu, est à la base contradictoire.
Oui, c'est-à-dire des gens qui vous parlent mal et qui vous convoquent d'entrée, c'est comme ça. Voilà.
Déjà, oui, non, mais vous êtes convoqué, mais bon, encore, au moment où vous vous retrouvez devant la porte, souvent entre le moment où vous vous retrouvez à la convocation et le moment où vous avez reçu la lettre qui vous signale que vous apparaissez maintenant officiellement sur les radars de la justice des mineurs et que vous allez devoir venir, du juge des enfants, et que vous allez devoir venir vous expliquer devant ce juge parce qu'il y a un risque qu'on vous retire les enfants. Normalement, il y a un délai de 4 à 6 semaines qui se déroule. Donc, normalement, pendant ce délai de 4 à 6 semaines, souvent, les parents se retournent vers un avocat, puisqu'ils sont un peu dépassés. Je parle bien des parents qui ne comprennent pas ce qui est en train de leur arriver, parce que pour eux, il n'y a pas de dysfonctionnement, il n'y a pas de maltraitance. On parle de conflit parental.
Oui, la société a encore l'image de la version « on va sauver les enfants et si jamais on intervient, c'est qu'il y a une raison ». On a encore cette image d'épinal, de moins en moins, mais elle est encore très présente. Donc les gens se disent
«
non,
souvent,
ils vont se rendre compte, ils vont voir, ils vont… »
Voilà, mais souvent les gens, mais moi je ne peux pas en vouloir aux gens,
mais non,
des
non,
fois d'être incrédule quand ils entendent ça, avec l'image qu'ils se font de ces services. Mais on idéalise, comme on idéalise la justice, mais bon, entre l'idéalisation de la justice qu'on se fait et la réalité de la justice quand on y a affaire, bon, je pense qu'il y a un océan qui sépare
ces deux sentiments. Plus, oui, de plus en plus, tout à fait.
Voilà. Et là, il s'agit de parents donc, qui, normalement, en théorie, ont donc le droit de solliciter un avocat qui va pouvoir venir les accompagner et préparer la défense des parents durant le débat contradictoire sur la base d'un rapport qui doit être communiqué à la famille. Ça, c'est la théorie. Mais en pratique, souvent, quand les parents se retrouvent 10 minutes avant de rentrer dans le bureau du juge, c'est là que la partie adverse, c'est-à-dire les services sociaux, font transmettre à l'avocat le rapport qu'elles vont utiliser maintenant dans un quart d'heure avec le juge et sur la base duquel elles vont demander le placement des gamins.
Et encore. Moi, j'ai des témoignages qui disent qu'au bout de plusieurs années, ils n'ont jamais réussi à avoir les rapports.
Ben ça, déjà, c'est une défaillance. Et rien que pour je ne comprends pas. Parce que rien que pour ça, il pourrait y avoir vice de procédure. Et donc, un juge, il devrait casser la décision prise d'un juge dans ces conditions-là.
La famille
n'a pas eu ses droits.
Il casse
non,
pas.
Non, mais, mais là, là, c'est un autre problème. Parce que normalement, c'est pas un juge des enfants qui va se désavouer lui-même. Donc, normalement, il devrait y avoir un autre.
Non, mais le juge des enfants, il désavoue jamais. Effectivement, parce qu'il est 22, là. Et puis, on recreusera tous ces thèmes-là après, ensuite, sur Facebook. Oui, parce que là, tu vois, à 29, 29:30, on est obligé de rendre l'antenne.
D'accord.
On le recreusera ensuite. En fait, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a des abus de pouvoir qui se mettent en place, des dérives, des machines un petit peu folles, parce qu'il nous reste deux thèmes à aborder. C'est premièrement comment on se défend de ces gens qui sont censés défendre nos enfants. Mais ensuite, il faut qu'on parle aussi de la vie de ceux qui y travaillent, parce que c'est aussi une notion qui est importante, parce qu'ils sont critiqués de tous les côtés.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Déjà, est-ce qu'on a des recours contre ces gens qui viennent nous voir parce que l'école a dit que l'enfant dormait, ou alors que votre ex-conjoint ou conjointe a dit que si ou cela, ou que quelqu'un a commencé avec... Comment on
tout
se défend?
Tout est possible.
Voilà.
On se défend de ça avant la prononciation de l'ordonnance de placement provisoire.
D'accord.
Voilà, c'est donc avant.
Provisoire, là, c'est un an, c'est ça?
Souvent, c'est une année scolaire.
Voilà.
De 9 à 12 mois. Voilà. Ça peut aller de 9 à 12 mois. Et normalement, chaque fin de placement, c'est-à-dire tous les 9 mois ou les 12 mois, la famille, les services sociaux et les enfants concernés vont se retrouver devant le juge pour savoir si le juge, en fonction du rapport qui va être présenté par les services de l'ASE, la situation a évolué de façon positive, donc il peut procéder à une main levée et un retour des enfants à la maison. C'est ça le but d'une ordonnance. Ça s'appelle ordonnance de placement provisoire. C'est-à-dire quand même, à partir du moment où c'est prononcé, il y a toujours cette possibilité du retour des enfants à la maison. Parce que moi, une fois, ça m'est retrouvé devant le juge où je voyais dans un dossier où systématiquement, depuis 7 ans, la mesure était automatiquement reconduite comme un contrat de location. Donc moi, j'ai posé la question. Là, le gamin avait 11 ans, il en a 17. Dans un an, en fait, ça n'aura pas été une ordonnance de placement provisoire. Ça aura été une ordonnance de placement permanente jusqu'à sa majorité. Et ce n'est pas ça, une ordonnance de placement provisoire. Voilà. Et l'ASE, donc, réalise un rapport. Et le juge, c'est ça le principal problème, c'est que le juge des enfants se fie à 200% au rapport de l'ASE.
Alors, il y a une autorité qu'on peut aller voir, il y a un organisme de gestion, de contre-pouvoir, on peut porter plainte contre quelqu'un, on peut s'adresser à quelqu'un.
Oui, mais tous les chemins mènent au TGI, au procureur et au président du même tribunal.
Qui vont écouter les 4 pages qu'ils reçoivent, faites par des administratifs jeunes.
Je n'ai jamais vu un procureur ou un président de TGI sollicité par une famille en conflit ouvert avec la décision d'un juge et des services sociaux intervenir et venir désavouer la décision d'un juge. Donc,
il n'y a aucun moyen. Tout à fait. Et quand on se plaint au directeur du département, celui-ci va dire la justice est indépendante,
à moins qu'on ait la chance d'avoir un avocat qui, lui, un avocat qui fait bien son travail et qui arrive à faire prendre conscience aux juges et aux services sociaux que non, que la situation
doit évoluer. Ça, il faut le dire aussi, c'est que dans ce système qui se met en place et tout, on commence à dépenser de l'argent. Si on est solvable, on va donner beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Si on n'est pas solvable, beaucoup pour pas grand chose, voilà. Parce que très clairement, un placement, c'est déjà 10, 15 000 balles de frais qui arrivent d'entrée comme ça.
Oui, oui. Hein, Et le problème, c'est que l'ordonnance de placement, quand il s'agit de gamins qui sont placés en foyer et en MEX, il y a un autre enjeu qui apparaît et qui n'est pas écrit dans le rapport de l'ASE, c'est que l'enfant, dans la famille d'accueil où il est placé ou dans le foyer où il est passé, l'ASE, comme elle sous-traite cette décision qui est prise par l'ASE, c'est pas l'ASE elle-même qui accueille physiquement ses enfants dans des internats qu'elle a, elle, avec un personnel estampillé
et formé. Ce sont des associations avec délégation de services d'État.
Et des associations à but non lucratif. Oui. Ça, c'est des associations loi 1901. Mais la réalité, c'est que ces structures, lorsqu'elles tombent sur des enfants qui sont placés là sur des motifs légers, mais qui s'avèrent être des gamins paisibles, des gamins qui vont à l'école, qui font leur sport, qui mettent jamais, l'équipe pédagogique en difficulté, tout ça, plutôt que de les renvoyer chez eux, dans la structure, on préfère les garder jusqu'à leur majorité parce que le département paye 5000 euros par enfant placé dans le foyer, par mois. Le département paye 5000 euros par mois pour un enfant qui est bien, qui se comporte bien. Pour un enfant qui, quand on vous le présente, est déjà inscrit dans la déscolarisation, dans la délinquance ou qui même fugue. Parce qu'ici, il y a des structures dans le Tarn où il y a des gamines qui sont déclarées en fugue pendant 15 jours en fugue, déclarées absentes du foyer. Et c'est la police, sur une injonction d'un juge d'application
des peines, qui les retrouve. Et elles ne fuguaient pas avant d'arriver au foyer. D'accord.
Non. Mais le fait d'être placé, ça leur a permis de fuguer.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Très rapidement, là, aujourd'hui, en 2023-2024, on a les structures pour s'occuper correctement des enfants que l'on reçoit en 30 secondes.
Non.
C'est le désastre. Les reportages qu'on voit à la télé, c'est vrai.
C'est comme les prisons. Il y a un problème de place. Parce qu'aujourd'hui, apparaît un nouveau phénomène, les MNA. Des mineurs non accompagnés, ces adultes immigrés qui viennent d'autres horizons et qui pour beaucoup sont plus proches des 18-19 ans que des 12-13 ans. Donc ces mineurs non accompagnés, reconnus pareil toujours par le juge des enfants comme un mineur, à partir de ce moment-là, même s'il est arrivé de façon illégale dans le département, il est pris en charge dans les mêmes structures. Moi, j'ai travaillé dans des structures où vous avez des petits gamins de 12 ans retirés à leur famille sur des sujets faillacieux qui se retrouvent à cohabiter avec des jeunes hommes qui arrivent de je ne sais quel horizon et qui sont là avec eux sous le même toit.
Donc on met ensemble les enfants qui ont un trouble passager et autres, on ne renforce pas les familles et on mélange ensuite les vrais enfants à problème, les vrais enfants en danger. Enfin vraiment, tout ce petit monde-là se retrouve ensemble et va grandir ensemble dans des endroits...
Il y a encore un truc plus pervers, si je peux me permettre, vite fait.
On rend l'antenne dans une minute, vas-y.
D'accord. C'est que souvent, maintenant, il y a même des structures où elles vont jusqu'à, dans certains cas, renvoyer les petits-enfants nationaux chez eux ou dans une structure équivalente pour privilégier l'accueil des MNA. Pourquoi ? Parce que le département paye plus cher un prix de journée pour un MNA que vous avez dans vos effectifs que pour un mineur national.
C'est-à-dire qu'en fait, ils vont payer plus cher pour un immigré que pour un enfant du coin, et l'enfant du coin va se retrouver à l'hôtel ou dans un camping ou ce genre de choses.
À l'hôtel ou dans une famille d'accueil ou même parfois comme
et ça, c'est pas une légende, c'est vraiment comme ça.
C'est pas une légende. Vous avez des préfets qui sont obligés de réquisitionner des hôtels.
Tout manite à 15 secondes. Donc, travailler, être éducateur, très souvent, c'est un chemin de croix, c'est vraiment une vocation et autre. Travailler à l'ASE aujourd'hui, ça fait quoi ? Comment on se sent ?
Je pense qu'on doit se sentir comme se sent quelqu'un entre un marteau et une enclume. Voilà, le marteau de l'administration dans laquelle vous travaillez et l'enclume de votre conscience qui vous dit que vous n'êtes pas en train de faire les bonnes choses. Donc ça, c'est quelque chose que je ne souhaite pas à tout le monde et c'est très compliqué.
Il faut être extrêmement fort pour le faire.
Et puis, il faut surtout oser affronter sa hiérarchie.
Oui, et parce qu'à chaque fois que je me rapproche du terrain, moi, je me rends compte que, d'accord, certes, il y a des gens qui ne sont pas bien, mais je rencontre aussi beaucoup de gens qui veulent vraiment faire leur boulot, tu vois, et puis... Franchement, c'est pas simple. Dans l'environnement dans lequel ils sont, franchement, c'est pas facile.
Okay. Mais c'est pour ça que je pense que le mieux, ce serait une intervention extérieure et neutre pour les soulager.
Rends l'antenne, je lance le générique de fin et on se retrouve ensuite sur Facebook pour les questions. Au revoir tout le monde, à la semaine prochaine. Au revoir.
À bientôt.
Justice, enfance.